Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions au SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Il faut dire que le scénario est de plus en plus noir. Dans un dernier rapport conduit par des experts français, on apprend que la température pourrait monter de 7 degrés en 2100, la pire des hypothèses, alors que le réchauffement climatique fait désormais partie de notre quotidien. La sécheresse frappe 88 départements, pas une goutte d'eau à Paris depuis le 18 août. Des rivières tout simplement vidées de leurs poissons, des villes sans eau potable, des centrales nucléaires mises au ralenti. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la France en cette rentrée septembre 2019. Et il faut faire face à l'urgence et préparer la suite. Alors, quelles sont les conséquences les plus lourdes de cette vague de sécheresse? Va-t-il falloir rationner l'eau toute l'année? Est-il déjà trop tard pour adapter notre agriculture, nos industries à cette nouvelle réalité? Village, forêt, nucléaire, la crise de l'eau, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Benoît Hartmann, vous êtes géographe, spécialiste des questions environnementales, ancien porte-parole de l'association France Nature Environnement. Aziza Akmouche, vous êtes géographe, chef de la division ville et politique urbaine à l'OCDE. Vous y êtes notamment responsable du programme sur la gouvernance de l'eau. Emma Aziza, vous êtes hydrologue, présidente fondatrice du centre de recherche Mayan sur l'adaptation au changement climatique. Enfin, Frédéric Danhaise, vous êtes journaliste spécialiste des questions d'environnement. Rappelons votre livre « Le sol, enquête sur un bien en péril » dont la deuxième édition est à retrouver en poche chez Flammarion. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Emma Aziza, pour faire un point sur cette carte de France qu'on voit en rouge maintenant depuis plusieurs mois. On s'est presque habitué à se dire « bon, bah voilà, ok, on est en phase de sécheresse ». En réalité, on est chaque jour un peu plus dans une situation de crise.
C'est ça, exactement. Et puis les scénarios, en fait, sur le plan météorologique, ne semblent pas arriver vers des situations plus, avec beaucoup plus de pluviométrie. Donc, on a des scénarios trimestriels août, septembre, octobre, qui effectivement nous annonçaient un déficit pluviométrique supplémentaire, alors qu'on faisait face déjà à un état de sécheresse majeure dans l'ensemble de la France métropolitaine, accentué, en fait, qui s'est vraiment, j'ai envie de dire, la France a plongé d'un coup dans un état de sécheresse accentuée par les deux canicules cumulées qui ont changé complètement le scénario qui ne semblait pas être celui-là au début du printemps. Donc en fait, on a démarré le printemps de manière assez positive alors qu'on faisait face à quatre années successives de sécheresse majeure et on a plongé dans des états encore jamais vus effectivement.
Et quand on se projette?
Et quand on se projette, ben pour l'instant, dans les deux prochains mois, il va falloir faire attention. Et surtout, ça risque de s'étendre dans le temps. On a vu qu'en 2017, la sécheresse s'était prolongée jusqu'à fin décembre et qu'on avait basculé d'un état de sécheresse extrême à quelques jours après des pluviométries intenses sur notamment le bassin de la Seine qui avait généré les grandes crues de la Seine en 2018. Donc on voit bien qu'on passe d'un extrême à l'autre et qu'on a surtout des nouveaux scénarios jamais similaires d'une année à l'autre. Mais par contre, avec des résultats, dramatiques sur les territoires.
Il y a des gens qui nous regardent ce soir et qui se disent peut-être « Oui, mais nous, on s'en souvient, en 1976, il y avait une énorme sécheresse et des sécheresses, il y en a assez régulièrement. En quoi cette situation est singulière ?»
Effectivement, 1976 était singulière par sa longueur, puisqu'on avait eu un déficit de pluie qui avait démarré l'année précédente. On avait eu aussi un état caniculaire. Par contre, la pointe de canicule qui avait eu lieu au mois de juin, en fait, était montée à 36 degrés. Cette année, on est arrivé sur du 46 degrés, donc du jamais vu. On voit bien qu'avec les températures actuelles, une trentaine de degrés sur le nord de la France et une quarantaine encore il y a quelques jours sur le sud, qu'on est encore dans des états finalement dramatiques. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a de nouveaux départements qui n'étaient pas habitués à ces sécheresses.
Par exemple ?
Ben, tout simplement le nord de la France, la Picardie, n'a pas l'habitude de vivre ces sécheresses, donc est encore moins habituée. Et donc là, c'est un retentissement encore plus lourd sur notamment l'agriculture et l'industrie.
Frédéric, il y a des régions qui sont plus touchées, là. On parle du centre de la France.
Oui, c'était pas touché avant. Par exemple, la ville de Guéret, il y a 60 sources au niveau de la ville de Guéret. Alors certes, on est sur du granit, donc l'eau s'infiltre très vite, mais 60 sources pour une ville qu'on associe volontiers à la pluie, au brouillard, et qui aujourd'hui est obligé d'aller pomper l'eau dans la base nautique, avec de toute façon la perspective de devoir être alimenté par des camions-citernes. Alors, vous citez la sécheresse de 1976, effectivement, c'était la pire d'un point de vue météorologique. On a oublié celle du printemps 2011, qui était la pire pour les agriculteurs, parce que là, on a eu un déficit d'eau utile au sommet du sol, au printemps, c'est-à-dire au moment où les plantes en avaient le plus besoin. Et on a oublié la sécheresse hydrologique qui affecte directement les pluies et le remplissage des rivières en 1989.
Et c'est là que je vous repose ma question. Ouais. En quoi c'est différent? On a choisi la crise de l'eau. Est-ce que vraiment, et si ce n'est pas le cas, il faut nous le dire, hein, rassurons-nous les uns les autres, mais est-ce qu'on est vraiment dans une situation... Oui. Parce que les nappes phréatiques sont en profondeur très assez...
73% des nappes, effectivement, sont en déficit. Aussi, et je rebondis sur ce que vous avez dit, c'est cumulatif, c'est-à-dire le déficit d'eau en août 2018 n'a pas suffisamment rechargé les nappes. Entre-temps, il y a eu le printemps, donc les plantes en poussant ont tiré sur les nappes. Ouais. Ensuite, on a eu la sécheresse. Donc si là, il ne pleut pas maintenant à cet automne, les nappes ne pourront pas se recharger. Ce sera encore pire l'an prochain pour l'agriculture et pour les rivières. Donc pour répondre maintenant à votre question, on ne sait pas parce qu'on n'a pas le recul, mais c'est sans doute un peu les trois. On a sans doute la sécheresse. Vous savez, il y a trois types de sécheresse, agricole, hydrologique et météorologique. On a sans doute un peu les trois. C'est un phénomène unique. De par sa précocité, de par sa fréquence, de par les écarts de température, est-ce que ça va se prolonger?
On n'en sait rien.
Par contre, il faut qu'il pleuve cet automne, vraiment, sinon l'an prochain, ça va être encore
pire. C'était la question que je voulais vous poser. Il faudrait qu'il pleuve pendant combien de jours pour qu'on retrouve des niveaux d'eau normaux?
Il faut qu'il pleuve sur des sols qui ne soient pas trop secs. Sinon, c'est le syndrome de l'éponge. Une éponge trop sec, s'il pleut d'un coup dessus, l'eau va ruisseler dessus et ne va pas s'infiltrer dans l'éponge. Donc, il faut qu'il pleuve un petit peu pendant, allez, 3 semaines.
C'est ça.
Voilà, à peu près.
Un petit peu pendant 3 semaines. On est prêts, hein, tous, hein, ce qui pleut pendant 3 semaines. Aziza Akmouche, sur ce côté exceptionnel de la situation que traverse la France en ce moment.
En fait, la France n'est pas seule, d'abord, parce qu'on observe une tendance très forte.
En Namibie, là, par exemple, j'ai vu.
Dans les pays développés comme en développement, d'ailleurs, de sécheresse. On estime qu'à l'horizon 2050, il y a 4 milliards de personnes qui vont vivre dans des situations de stress hydrique. Donc, il y a clairement, avec l'urbanisation, avec le changement climatique, avec les pressions démographiques, des pressions très fortes et des concurrences très fortes qui vont s'exacerber entre les usages industriels, énergétiques, agricoles et domestiques. Mais on sait surtout, dans le cas de la France par exemple, l'OCDE a conduit en 2016 un examen des performances environnementales où la France était catégorisée dans les pays à situation de stress hydrique modéré. Donc on a des prélèvements en eau en France qui sont par exemple supérieurs à ce que l'on peut observer au Danemark ou aux Pays-Bas ou même en Allemagne, mais qui restent très inférieurs à ce que l'on peut observer en Espagne, etc. En revanche, ce qui était déjà clair en 2005 comme en 2016, c'est que les tensions vont être de plus en plus fortes et qu'il est important de passer d'une situation entre les usages industriels,
entre les agriculteurs et l'industrie,
entre les villes, entre l'environnement, etc. Et donc, il ne faut pas regarder l'image statique que l'on a aujourd'hui et la crise que l'on a aujourd'hui, puisque quelle que soit la situation des pays aujourd'hui, on sait qu'il va y avoir des pressions de plus en plus fortes sur les ressources à moyen et à long terme.
Les ressources en eau, précisément.
Absolument.
Juste, c'est une expression qu'on entend beaucoup, je voudrais revenir avec vous là-dessus, le stress hydrique. D'un coup, on a découvert, les uns et les autres, on se met à parler au quotidien de stress hydrique. C'est quoi exactement? À partir de quel moment on considère que la France est en stress hydrique?
Situation de stress hydrique modéré, par exemple, c'est à peu près 500 mètres cubes. La France prélève un peu moins d'eau per capita par an. Donc, il y a évidemment des régulations. On estime, pour l'usage domestique, par exemple, l'OMS et les instances onusiennes disent qu'il faut, à minima, dans le droit tel qu'il a été adopté par les Nations Unies, 50 litres d'eau par jour et par habitant, mais on se rend compte effectivement que 70% de la consommation de l'eau va à l'agriculture en réalité. L'usage domestique reste assez marginal, entre 10 et 15%, et le reste entre des usages plutôt industriels ou énergétiques.
Benoît Hartmann, sur cet aspect-là, sur, en gros, quand on regarde le passé, on se dit, bon, voilà, c'est pas si grave, et puis finalement, quand on regarde l'avenir, on se dit, va falloir se préparer.
En fait, ce qui fait l'originalité de cette sécheresse, c'est qu'elle vient après beaucoup d'autres et qu'elle est précurseur de beaucoup d'autres. C'est-à-dire qu'il faut accepter que si on ne fait rien, en l'état actuel des choses, des périodes de sécheresse plus fréquentes, plus longues, et des stress hydriques plus importants, oui, c'est bien ce que le réchauffement climatique provoque sur le climat. Parce que le réchauffement climatique, ce n'est pas la même chose que la météo. Mais le réchauffement climatique global, vous évoquiez plus 7 degrés dans la pire des hypothèses, ce fameux plus 2 degrés qu'on essaye de tenir et qui pourrait devenir un plus 7.
Là, c'est vertigineux. Quoi.
Oui, parce que plus 7 degrés... Enfin, il ne faut pas penser qu'il fait 20 degrés et là, il fait 27. C'est une moyenne sur l'année. Et donc, plus 7 degrés, ça veut dire que vous avez eu des canicules à 55 qui ont fait monter votre moyenne. Donc, le gros problème auquel nous, on est confrontés, c'est que cette sécheresse-là, si dans une série statistique longue, elle se reproduit très régulièrement, elle est bien le signe d'un réchauffement climatique qui est en cours et qui va demander des changements profonds. On l'évoquait, le partage de la ressource ne peut plus être le même. On ne peut plus accepter de dépenser 80% de notre eau l'été dans l'agriculture. culture pour 6% de la surface agricole utile cultivée. Mmh. Ce n'est pas possible. Mmh. En termes de partage de la ressource, évidemment, il va falloir en passer par la gouvernance de l'eau, c'est-à-dire des instances qui décident des usages prioritaires et aussi qui va peut-être devoir décider de renoncer à certaines formes d'agriculture si elles sont trop consommatrices en eau pour l'intérêt commun.
Si on se projette sur l'aspect vraiment de lié à l'eau qui nous réunit ce soir, de cette étude d'experts français, hein, c'est pas comme ça au doigt mouillé les 7 degrés, quelles conséquences est-ce qu'on imagine, est-ce qu'on a modélisé les conséquences que ça peut avoir sur, on parle des températures, ouais, mais vraiment sur le manque d'eau et sur notre consommation d'eau.
C'est très local, c'est-à-dire que les scénarios envisagés par le GIEC sur l'effet que ça a sur l'eau, oui, sont très locaux et donc on a une idée de ce que ça peut donner sur la France. Ce qu'on sait, c'est que quand il fait plus chaud, il y a plus de vapeur d'eau dans l'air et donc le réchauffement augmente parce que la vapeur d'eau, malheureusement, est un gaz à effet de serre. Donc il y a un effet d'emballement. Ce dont on nous prévient, c'est de dire, vous allez avoir des événements, des tempêtes en mer, ça, ouais, plus importante, vous allez avoir un régime des eaux qui va être déséquilibré, qui va commencer à ressembler à celui qu'il y a en Méditerranée.
Ça veut dire quoi, régime des eaux ?
Ça veut dire à quelle fréquence tombe la pluie.
D'accord.
Quand vous avez l'habitude que la pluie violente tombe régulièrement au printemps, à l'automne, et que ça recharge des nappes phréatiques, et que vous ayez un été relativement court avec des orages, et que tout d'un coup, vous avez des étés complètement secs, et que vous avez une pluie qui est concentrée sur 2 ou 3 mois de l'année, alors vous ressemblez à un climat méditerranéen. Sauf que vous comprenez bien que quand on est dans la Creuse ou dans la Beauce, on n'est pas habitué ni aux techniques agricoles pour vivre avec ça, ni à supporter non plus tout ce que ça veut dire en termes d'érosion. Tout ce qu'on a fait en supprimant les haies, malheureusement, on le paye très cher le jour où on passe dans un régime qui est presque méditerranéen.
En fait, il faut comprendre que la France descend vers le sud, tout simplement. Donc, il fait de plus en plus chaud, oui, donc le climat du sud remonte vers le nord. Donc vous imaginez que la France descend vers le sud. Donc la Méditerranée s'aridifie comme le Maghreb. Ouais. Voilà. Ça remonte, ce climat méditerranéen remonte par la vallée du Rhône. Et donc les pluies sévenoles qui sont typiques, ces abats d'eau très brutaux qui sont typiques de l'arrière-pays méditerranéen vont commencer à concerner le massif central et un arrière-pays plus important. Après, c'est 7 degrés, attention, hein, on tire la courbe jusqu'au bout en supposant que rien ne changera. C'est le scénario catastrophe. Donc parce qu'il est catastrophe et parce qu'on a tous peur, on n'y arrivera pas, parce que je vois pas comment...
Vous êtes sûr ?
Oui, oui. Il faut être optimiste.
Vous avez raison.
Le vrai problème, c'est qu'on n'a pas juste un problème de stress hydrique, on a différents risques liés à l'eau. Donc en même temps que les sécheresses, vous avez des inondations.
C'est le paradoxe.
Qu'il faut arriver à gérer, c'est le paradoxe. Dans le même pays, vous avez des problèmes de pollution, les métaux lourds, les nitrates, les pesticides.
Pourquoi ?
Et donc, des pollutions des ressources en eau liées à l'utilisation des pesticides et des nitrates. Et donc, ça veut dire qu'en réalité, il ne faut pas prendre le problème de façon isolée, qui est celui de la sécheresse. Il faut penser à la sécurité hydrique dans son ensemble. Et ça implique de regarder trop d'eau, pas assez d'eau, ouais, une eau polluée. Et à la fin, qu'est-ce qui arrive dans le robinet des usagers ?
Parce que jusqu'à présent, en fait, on a toujours vécu en considérant que l'eau n'était pas un sujet. En fait,
exactement,
c'est ça qui va peut-être changer. En tout cas, la carte de France est passée au rouge depuis des semaines maintenant. 88 départements sont en état d'alerte en raison de la sécheresse. 48 départements précisément en crise. Faute d'eau, plusieurs centrales nucléaires tournent au ralenti. Et dans certains villages du centre de la France, c'est par camion-citerne que s'opère désormais le ravitaillement pour l'eau potable. Magali Lacrosse, Lou Kissiela et Diane Cacciarella.
À Bort-les-Orgues, en Corrèze, ce matin, le balai des citernes a commencé. Un premier camion, puis un deuxième bientôt. La maire de la ville vient s'assurer que les opérations de prélèvement d'eau potable se passent bien.
Bonjour.
Donc là, c'est de l'eau qui est prise sur le réseau de bord en direct, qui va partir dans la cuve pour être acheminée sur les communes qui n'ont absolument plus d'eau aujourd'hui.
C'est devenu presque un rituel depuis le 5 août. Tous les jours, 17 fois par jour, le même mouvement autour de la bouche incendie. L'eau prélevée fournira 8 villages voisins, totalement à sec. Mais pour combien de temps ?
On ne peut pas, à l'infini, puiser 400 mètres cubes d'eau jour sur le réseau de bord. Ça peut être de manière éphémère, mais pas de manière continue. Ça restait exceptionnel.
Et voilà l'eau, acheminée comme un liquide précieux, prêt à être livrée, lancé sur la route. Une situation dramatique de sécheresse due aux épisodes de canicule, de manque de pluie. Dans 88 départements en France, des restrictions d'eau ont lieu. Certains, en orange sur la carte, sont en alerte renforcée, d'autres, en rouge, sont en crise. Les prélèvements d'eau non prioritaires sont à l'arrêt, pour l'agriculture par exemple. Et les conséquences sont multiples. Certaines centrales nucléaires fonctionnent déjà au ralenti. EDF a réduit la production d'un réacteur à Bugey près de Lyon. Et sur la Meuse, un réacteur est à l'arrêt depuis le 11 septembre en raison des conditions climatiques actuelles, dit EDF dans ce communiqué. D'autres ralentissements dans les centrales sont attendus ce week-end. Il faut éviter les rejets d'eau trop chaude dans les cours d'eau qui porteraient un coup fatal à la faune et la flore, déjà fragilisée par le manque de pluie. Et ce n'est pas Michael, le pêcheur de l'Allier, qui nous dira le contraire.
Cette photo, elle a été prise un été où on avait une situation normale. On n'était pas en situation de sécheresse. On voit que la rivière, voilà, elle coulait sur 10 à 15 mètres de large. Aujourd'hui, voilà, on la voit même quasiment plus parce qu'il y a un tout petit filet d'eau qui coule sur une berge. Et puis surtout parce que la végétation, en l'absence d'eau, s'est énormément développée.
La rivière a bien diminué depuis le début de l'été. Et dans les cours d'eau à bas débit prolifère une mauvaise algue filamenteuse dangereuse pour les poissons.
Quand elles vont se décomposer, elles vont consommer de l'oxygène, qui est vital pour les poissons, bien évidemment. Et puis en plus, elles colmatent le fond de la rivière, là où les poissons arrivent à trouver de la nourriture et surtout là où les poissons vont se reproduire.
Un pêcheur qui cherche ses poissons, et à quelques kilomètres de là, une maraîchère bio compte ces légumes qui résistent à la sécheresse.
Là, c'était les pois, et petits pois et pois mange-tout. Donc j'ai fini par les arracher, ils donnaient très peu. Et puis l'absence d'eau fait que voilà, ils étaient devenus durs, farineux, le légume n'était pas bon. Alors les carottes, ça a été à peu près. Les haricots verts, là, ils commencent à faire la tête. Les concombres, ils commencent à vraiment avoir la feuille qu'on appelle faire la feuille de tabac, en fait, hein, c'est qu'elle s'effrite. J'ai fait 4 semis, et comme il ne pleut pas, la graine ne lève pas, donc ça ne donne rien. Là, ils sont rachitiques, ils devraient faire le triple, je devrais commencer de les vendre, et ça végète. Donc l'automne, pour moi, la saison va s'arrêter au mois d'octobre, je pense.
Depuis 10 jours, les restrictions d'usage d'eau ont été renforcées par la préfecture de l'Allier. Céline pense déjà à d'autres solutions pour s'adapter au manque d'eau, mais à quel prix ?
Mon dernier recours, c'est le raccord au réseau d'eau de ville, d'eau potable. Mais là, du coup, là, ça a un coût bien plus conséquent sur les charges de la ferme. Donc c'est vraiment... C'est de l'ordre de 4-5 000 euros de facture d'eau par an, quoi, minimum. Donc quand on a à vendre de l'eau gratuite et qu'à présent, il faut avoir cette réflexion-là, on va essayer de trouver des solutions pour s'en sortir. Mais c'est vrai que c'est stressant, quoi. C'est des questions vraiment qui sont omniprésentes dans la tête. On y pense en permanence, quoi.
Dimanche, la pluie tant attendue devrait balayer l'ensemble de la France, mais pas de quoi alimenter les cours d'eau, ni rassurer les habitants des villes les plus touchées. La ville de Guéret, par exemple, pourrait manquer d'eau potable dès la semaine prochaine.
Et nous allons reparler de ce manque d'eau potable à Guéret et ailleurs, mais d'abord cette question. Nos centrales nucléaires sont-elles un grand danger si la sécheresse persiste ?
Non.
Alors,
ça dépend.
On ne s'attendait pas à ça, alors, quand même. Est-ce qu'on doit baisser le niveau de...
Alors, une centrale nucléaire a besoin de beaucoup d'eau pour fonctionner, pour refroidir son cœur, et c'est pour ça qu'elles sont toutes au bord des rivières, c'est pour pouvoir puiser de l'eau. Une sécheresse, ça vient doucement. C'est-à-dire que ce n'est pas du jour au lendemain qu'il n'y a plus d'eau dans la rivière. Donc, le risque d'avoir l'emballement d'un cœur parce qu'il ne serait plus alimenté en eau, heureusement, on ne l'a pas, parce qu'on éteint la centrale avant. En revanche... Le fait d'éteindre des centrales, ça peut poser un risque quand on est aussi dépendant, pour l'électricité en France, du nucléaire. Parce que c'est bien l'équilibre global de l'alimentation en électricité qui peut poser des problèmes. Il n'y a pas de risque d'explosion de centrales nucléaires comme à Fukushima, où ils ont été privés de leur eau par un tsunami, c'est-à-dire un événement très puissant, immédiat, où tout d'un coup, vous n'avez plus d'alimentation en eau. Là, malheureusement ou heureusement, on le voit venir, le manque d'eau. Oui. Donc, on ferme les centrales avant. En 2006, c'était arrivé et on avait été obligé de fermer plusieurs centrales sur la Loire en particulier, où on avait des inquiétudes et où aussi l'eau était trop chaude pour refroidir. C'est-à-dire que non seulement il n'y en avait pas suffisamment en quantité, mais elle commençait à être pas d'une qualité suffisante pour faire le boulot.
Alors effectivement, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Déjà en 2006, il y a énormément de pays de l'Union européenne qui ont dû fermer des centrales nucléaires de façon assez temporaire. Ça a duré une dizaine de jours et ainsi de suite. Mais, y compris en France. Et d'ailleurs, il s'est passé deux choses. Il y a eu des autorisations spéciales qui avaient été octroyées à EDF qui n'ont pas été nécessairement toutes utilisées. Je crois qu'il y avait 5 sur les 60 réacteurs nucléaires qui étaient concernés. Mais de toute façon, on estime que la production d'énergie nucléaire fonctionne à hauteur de 60% de sa capacité l'été, qu'il y ait une vague de chaleur ou pas. Donc on n'est pas dans une situation où on fonctionne à plein régime et on n'a aucune marge de manœuvre. L'impact économique et même la production en tant que telle de l'énergie nucléaire, elle a été affectée à hauteur de 1%, 0,9% si je me souviens, pendant cette période de 2006. Donc ce n'est pas la première fois que ça se produit. Les opérateurs savent comment s'adapter. Il y a des mesures réglementaires qui permettent de minimiser les risques et on n'est pas dans le scénario catastrophe, effectivement.
Vous nous rassurez et on se dit que si cette sécheresse se poursuit, vous avez évoqué tout à l'heure décembre en disant s'il n'y a pas suffisamment de pluie, on se projette même sur une sécheresse qui pourrait aller jusqu'au mois de décembre. Là, on se dit, en décembre, on sollicite davantage nos centrales nucléaires. Est-ce que là, on n'est pas dans un scénario, si les choses se passent comme ça, qui serait inédit ?
Absolument. De toute façon, le risque, il ne faut pas qu'il dure à moyen terme. Et donc, tout le monde attend la pluie et c'est normal. Mais si vous prenez des pays comme le Brésil, par exemple, où la production énergétique est un enjeu de sécurité nationale, ou même les États-Unis, où on estime que 40% des prélèvements en eau vont directement à l'énergie, la France, on n'est pas encore dans cette situation-là non plus. On a vraiment un usage essentiellement agricole et puis le reste est réparti entre les industries et la production énergétique.
Mais ça, c'est intégré, par exemple, dans l'industrie de l'énergie en France. On intègre, quand on fait, si on croise les deux informations, plus 7 degrés en 2100, et ce que vous nous expliquez sur le fonctionnement des centrales nucléaires, on se dit, est-ce que ça, on est en train de réfléchir à la façon dont il va falloir faire tourner ces centrales?
C'est pour ça qu'ils mettent des centrales au bord de la mer. Enfin, si on commence à vouloir localiser des centrales au bord de la mer, c'est pour pas avoir de rupture d'approvisionnement en eau. Parce qu'on sait que le niveau de la mer, il descend plus lentement et qu'il est moins variable que le niveau des rivières. Ouais. Après, ça va pas sans poser un certain nombre de problèmes environnementaux et de graves dangers face à la mer, parce qu'on sait ce qui peut se passer face à la mer maintenant qu'on a vu ce qui s'est passé au Japon. Mais néanmoins, oui, on peut dire que les industriels s'adapte, entre guillemets, à une variabilité de la ressource en eau.
Il y a l'interconnexion des réseaux à l'échelle de toute l'Europe, il y a l'arrivée des énergies renouvelables, lesquelles aussi sont affectées par la sécheresse, on ne le dit pas, mais quand il y a un anticyclone comme il y a aujourd'hui, il n'y a plus de vent, les éoliennes ne tournent plus, et au-delà de 25 degrés de façon continue, le rendement des panneaux photovoltaïques commence à chuter. Quant aux centrales nucléaires, juste dire un élément, c'est que si les centrales sont affectées, les réacteurs sont arrêtés, c'est aussi pour une raison liée à la biodiversité et à l'état des rivières, c'est qu'elles n'ont pas le droit de rejeter une eau chaude qui introduirait une différence de température de 7 degrés, typiquement, et à partir d'une température maximale. C'est-à-dire, si dans une rivière, on estime que la biodiversité, elle est très très bien à 24 degrés, il ne faut pas qu'il y ait un degré de plus. Voilà, c'est tout. Ouais. Et donc, les centrales nucléaires, mais pas qu'elles, toutes les industries qui utilisent de l'eau n'ont pas le droit d'introduire un réchauffement de plus de 7 degrés. En tout état de cause, la sécheresse, la canicule, la modification globale du climat avec des anticyclones plus longs sur la France interrogent toute la transition énergétique. Ouais. Et on le voit bien avec les éoliennes. Les éoliennes, finalement, ont très peu participé à la production d'électricité en France pendant cet été. Et là où il y a une grosse densité de panneaux photovoltaïques, on a remarqué que, certes, la durée d'ensoleillement étant plus longue, les panneaux ont plus fourni, mais on a tous remarqué qu'à mesure que les températures augmentaient dans la journée, le rendement baissait, donc les panneaux fournissaient moins d'électricité.
Parce que
la technique, parce que les matériaux utilisés dans les panneaux photovoltaïques, comme pour les ordinateurs, ils sont vraiment efficaces sur une gamme de température. Et au-delà de la température maximale, ça baisse un petit peu.
Si on tire la leçon de tout ce que vous nous expliquez, est-ce que, pareil, on essaie de se projeter un petit peu dans les modélisations qui sont faites avec ces scénarios, évidemment ces scénarios noirs, quelles sont les énergies qu'il faudrait privilégier? Si on se dit, bon, le nucléaire, on va l'installer au bord de l'eau avec toutes les réserves qu'on peut avoir et au bord de la mer. Est-ce que c'est les panneaux photovoltaïques?
C'est un mix de tout, y compris du nucléaire jusqu'à présent. Parce que si demain, si on terminait trop tôt le nucléaire et qu'on n'avait pas assez vite les énergies renouvelables pour les remplacer, on se retrouvait avec un gros problème. Il faut faire un peu feu de tout bois. D'autant plus qu'il est très difficile de modéliser à cette échelle-là. Il y a plein de variables que l'on ne connaît pas.
Ouais.
On peut parler aussi des barrages hydroélectriques, qui sont une vraie problématique, qui étaient très souvent, en fait, EDF gérait ces barrages hydroélectriques, et notamment les débits à l'aval, en fonction de critères internes, notamment, bien souvent, le cours de l'électricité, qui a en général du mal à être compris par les populations piscicoles à l'aval, puisque d'un seul coup, vous alliez des lâchers de barrages, et puis d'un seul coup, finalement, vous avez une retenue, et donc, effectivement, avec des niveaux qui étaient absolument artificiels. Donc, il y a deux effets à ça. Premièrement, un effet sur la biodiversité qui a été dramatique, puisque ça a été un des critères sur la chute de biodiversité. Mais deuxièmement, ce sont des populations riveraines aussi qui ont appris à vivre, en fait, avec un cours d'eau qui ne vit pas, qui reste toujours à peu près similaire. Et si vous voulez, notamment, on l'a vu, toutes les crues moyennes des cours d'eau, si on part sur le risque inondation, en fin de compte, c'est quelque chose qui, normalement, permet de montrer l'état de vie d'un cours d'eau, que ce soit une phase d'étiage très, très basse, finalement, ou bien un état de crue majeure. Et le fait de confisquer, en fait, ces crues moyennes par les retenues en amont fait qu'on a donné le sentiment qu'on contrôlait l'eau et que, finalement, et donc, il n'y avait plus de vie. Ces cours d'eau, si vous voulez, qui normalement sont ancrés dans un territoire, et donc les riverains ont directement modulé leur usage en fonction de ce territoire, ont été complètement déconnectés de la réelle vie du cours d'eau, et notamment de la vie, j'ai envie de dire, du cycle pluviométrique et donc, local.
Et donc, ça veut dire quoi? Qu'ils se sont installés trop près et qu'en cas d'inondation, c'est quoi les conséquences de ce que vous expliquez?
La première chose, effectivement, c'est qu'on a complètement oublié que ces cours d'eau pouvaient vivre. Et donc, comme on confisque les crues moyennes, dès lors qu'on dépasse un certain niveau de débit, en fin de compte, le barrage devient transparent. Et à ce moment-là, les crues majeures, ce qui est certain, c'est qu'on ne les empêche pas par ces retenues. Donc, en fin de compte, d'un seul coup, ils découvrent qu'ils sont en zone inondable et qu'ils sont en plus installés dans le lit majeur de la rivière.
J'adore quand on parle de sécheresse et qu'on finit à parler d'inondation. En fait, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Juste parmi les conséquences qu'on n'avait pas forcément anticipées, je lisais en préparant cette émission qu'il y a des canaux qui sont fermés à la navigation reliant par exemple la Champagne à la Bourgogne. C'est-à-dire que là, on se dit, bah oui, en fait, il y a des voies de navigation qui sont utilisées pour les échanges, pour le tourisme.
Très peu. Le fluvial, c'est le parent pauvre des transports en France. Mais VNF, les voies navigables de France qui gèrent ces canaux, se posent la question parce que ces canaux à petit gabarit, souvent, les pauvres éclusiers voient 2-3 bateaux par an. Là, il y a une interdiction de navigation sur ces canaux de petit gabarit. Du coup, VNF se pose la question de savoir si ça vaut encore le coup de les entretenir, ce qui lui ferait faire des économies, mais ce qui, mine de rien, aura quand même de sacrées conséquences en aménagement du territoire, parce que qui entretiendrait ces canaux, ce sera la charge des communes qui n'en peuvent déjà plus faute de budget suffisant.
Ça remplacerait bien des camions néanmoins. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un intérêt climatique à justement tout ça se tient. Vous savez, s'il y a des sécheresses, c'est aussi parce qu'il y a du dérèglement climatique. S'il y a du dérèglement climatique, c'est aussi parce qu'on utilise trop les camions plutôt que les bateaux. Donc à un moment, il va peut-être falloir se dire, eh bien oui, il va falloir accepter d'investir sur du grand gabarit et faire plutôt du transport fluvial plutôt que
par camion. Mais s'il y a plus d'eau, comment on fait pour faire des
sur les grands gabarits, il y en aura toujours.
D'autres images qu'on a vu que je voudrais décrypter avec vous, c'est ces rivières qu'on vide de poissons. 600 kilos de poissons qu'on a évacués de la Creuse, ça a été pareil dans le Doubs, parce qu'il n'y a pas assez d'eau, parce que c'est pollué.
Il n'y a plus d'oxygène.
Moins il y a d'eau, moins sa qualité est bonne. C'est triste à dire, mais les polluants, ils arrivent toujours, et ils arrivent dans un moins grand volume d'eau. Donc l'eau devient non seulement rare, mais en plus de très mauvaise qualité. Par ailleurs, dans le reportage, on l'évoquait, quand l'eau est très chaude et qu'il y a des algues qui se développent dedans, elle consomme l'oxygène du milieu, ce qu'on appelle l'eutrophisation. Et l'eutrophisation, ça tue tout ce qui a besoin d'oxygène.
En plus, c'est souvent toxique.
Il y a peu de poissons qui ont besoin de peu d'oxygène. Il y a les carpes, vous voyez, il y en a quelques-unes qui peuvent survivre avec peu d'eau et dans une eau stagnante, mais dans nos rivières, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est ce qu'on appelle le débit d'étiage. Quand on fait un barrage, maintenant, un exploitant est obligé de maintenir un certain volume d'eau pour que la vie survive, quoi.
Je termine avec ce qui était le plus marquant dans le reportage qu'on vient de voir, le reportage de Magali Lacrosse, qui est le ravitaillement d'eau par camion-citerne. Là, on se dit, je le disais tout à l'heure en commençant l'émission, on n'est pas dans la science-fiction, c'est maintenant, c'est en ce moment, en septembre 2019, en France.
Ça avait déjà été le cas en 2003.
Pardon ?
Ça avait déjà été le cas en
2003. Donc là, visiblement, ça se produit aussi dans le centre de la France. Pourquoi ? Ça veut dire que quand on ouvre le robinet dans ces endroits-là, il n'y a plus d'eau ?
Non. C'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que nous, l'eau qu'on boit, elle est traitée dans des stations d'épuration. Simplement, la station d'épuration, elle a un seuil de qualité pour accepter l'eau. C'est-à-dire que si l'eau arrive trop polluée, elle n'est plus capable de l'épurer. Alors, quand on est dans ce niveau-là, l'eau qui sort d'une station d'épuration n'est plus propre à la consommation. C'est là qu'on va aller la chercher chez nos voisins. Mmh. Pas de panique. Néanmoins, en France, il y a des endroits où il y a de l'eau, il y a encore des réserves d'eau. Et la question que ça pose, c'est l'eau de boisson. C'est-à-dire, comment se fait-il que il y ait des restrictions et qu'on se retrouve avec des citernes pour de l'eau de boisson, alors même que, par ailleurs, on accorde des dérogations à certains agriculteurs pour pouvoir continuer à irriguer.
Qui irrigue avec de l'eau potable ?
Qui irrigue avec de l'eau qui alimenterait cette eau, qui ferait qu'elle serait moins polluée quand elle arriverait en tête de station si elle était pas utilisée d'abord.
Et à Isaac Mouche, là, on arrive dans la crise de l'eau. C'est-à-dire qu'on se dit, pour l'instant, c'est assez apaisé, ça se fait en bonne intelligence d'un village à l'autre. On se dit, viens prendre un camion citerne pour arranger tes affaires. Mais si on se projette un peu, on se dit que là, on arrive aux tensions que vous évoquiez tout à l'heure.
Alors, c'est sûr que la France a besoin d'un système beaucoup plus visible que des arrêtés sécheresse qui, on le disait il y a 3 semaines, mettent des pansements un peu sur les blessures, mais ne règlent pas véritablement les problèmes de rareté à moyen terme. Il y a des villes, c'est le cas du Cap en Afrique du Sud, qui attendent ce que l'on appelle le jour zéro. Mmh. C'est-à-dire, et c'est imminent, je vais dire, avec...
C'est quoi le jour zéro ?
C'est le jour où il n'y a plus une goutte d'eau qui sort du robinet et qui, du coup, pose la question des arbitrages qui se font, ça a été dit, entre les allocations, les prélèvements pour les usages agricoles, les usages domestiques, les usages énergétiques. C'est des choix politiques. Mais il faut des systèmes d'allocation qui permettent d'être suffisamment flexibles pour réallouer les usages prioritaires. En général, c'est quand même l'usage domestique et qui est prioritaire, évidemment. Il y a des dérogations pour l'agriculture, ça a été très bien dit. Mais ce n'est pas un scénario impossible, si je puis dire. On le voit dans d'autres pays avec des indices d'aridité très forts. L'Afrique du Sud en est un. On attend le jour zéro.
Au Cap, d'ailleurs, en février 2018, en fait, on a failli basculer en fait, dans cet état. On était vraiment à la limite d'avoir 4,5 millions de personnes qui n'étaient plus alimentées en eau potable. Donc, je veux dire, c'est, non seulement ce n'est plus un scénario de science-fiction, mais finalement, on était à ça de basculer dans un état de crise majeure. Et effectivement, ça a aussi été le cas
dans certaines grandes villes comme la France. Dans un cas comme celui-là, on sait ce qui se passe après le jour zéro ?
Tout simplement, après, il va falloir trouver d'autres moyens de ravitaillement, il va falloir mettre en place une autre intelligence. C'est bien souvent dans l'urgence et dans la crise qu'on réfléchit et qu'à partir de là, on trouve des solutions. Ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est qu'on a des villes comme Niort qui ont failli aussi se retrouver dans des situations similaires. Aujourd'hui, on est juste avant, j'ai envie de dire, la crise majeure. Peut-être qu'il est temps de s'adapter tout de suite parce qu'il y a beaucoup de solutions à mettre en œuvre avant d'être dans la crise majeure.
Et on va en parler précisément de Niort parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été mises en œuvre à Niort justement parce qu'ils se sont trouvés dans cette situation de crise. Alors, on parle souvent des récoltes frappées par le manque d'eau, moins des forêts françaises, pourtant très touchées par la sécheresse, des sapins rouges dans les Vosges, des arbres secs abattus en masse qui font baisser le cours du bois, des incendies, reportage Julien Launay, Marie Justet et Maxime Liogier.
Pas de répit hier pour les pompiers de la Vienne, épaulés par des collègues d'autres départements venus en renfort. Jusqu'à 200 hommes mobilisés en tout pour faire face aux flammes. Le feu s'est déclaré dans 3 localités et il a ravagé plusieurs dizaines d'hectares.
La grosse difficulté que nous avons, c'est que nous avons un vent de nord-est avec des rafales à plus de 50 km/h qui nous occasionne une multitude de sautes de feu.
La Vienne n'est pas la seule à être confrontée actuellement à ces incendies ou au risque d'un départ de feu. Avec la sécheresse, la végétation est vulnérable et les forêts se retrouvent très exposées. Dans les Vosges, situation tout aussi préoccupante pour les arbres, mais c'est un autre phénomène. Vu du ciel, il a de quoi interpeller, car le vert des sapins ne domine plus comme avant. Au sol, triste état des lieux.
Il est sec, cassant, foutu. Des aiguilles sont roussies, vertes, pâles. On voit qu'il n'est pas mort ni d'un insecte, ni d'un agent pathogène. En fait, il est simplement mort, sec sur pied. On distingue aucun trou d'insecte préalable. L'écorce ne se décolle pas. Donc, c'est un bois qui est mort de lui-même, très probablement lié à la sécheresse.
Trop chaud et pas assez d'eau. Résultat, en 6 mois, sur la moitié sud du Haut-Rhin, 100 000 mètres cubes de sapins ont séché, morts de soif. C'est comme si une grosse tempête avait soudainement frappé.
c'est l'enchaînement des épisodes de sécheresse ces 4 ou 5 dernières années qui ont conduit à l'affaiblissement du sapin. Nous, on est confronté à ce phénomène puisqu'on est la vallée la plus méridionale des Vosges. Donc, là, on est en quelque sorte une sentinelle sur ce réchauffement climatique et cette température moyenne qui monte chaque année avec des épisodes de plus en plus chauds et de plus en plus intenses, quoi.
Pas d'autre choix que d'abattre ces arbres en perdition. Trop dangereux pour les promeneurs nombreux dans les parages. Alors question, que faire de ce bois mort ?
Ici on voit c'est des gros bois, donc les gros bois trouvent preneurs avec les scieries locales qui commencent à jouer le jeu. Par contre tous les petits, on est obligé de les laisser en forêt, il n'y a personne qui les veut.
Ce dépérissement signifie que la qualité des sapins est moins bonne et que leur valeur baisse. C'est bien le problème pour toute une filière, mais aussi pour des collectivités qui en font l'exploitation et en tirent bénéfice. Le maire de Massevaux a fait ses calculs et la sécheresse a des retombées économiques préjudiciables.
Sur un budget, je dirais, normal, nous dégageons des excédents qui peuvent tourner aux environs de 100 000 euros. Donc aujourd'hui, ces excédents n'existeront plus, ne sont plus là, puisque les cours des bois, les volumes sont importants, et donc le marché est inondé de volumes très très conséquents, et le cours du bois est en train de s'effondrer.
Comment s'adapter à la sécheresse ? Ici à Massevaux, on n'exclut pas de remplacer les sapins à terme, en recherchant des essences plus résistantes. Le paysage pourrait donc bien changer à l'avenir.
Et il a déjà commencé à changer le paysage. C'était assez... Enfin, si on avait fait cette émission il y a un ou deux ans, on n'aurait peut-être pas imaginé que ça aurait fait chuter le cours du bois. Que...
Mais comme en 2003 ? En 2003, c'était passé la même chose. Moi, j'étais dans le Lot en 2003 pour un reportage et j'entendais les arbres qui tombaient, qui claquaient. Parce que la sève montait tellement fort, aspirée par l'air chaud, je résume et je fais très rapide, que les branches claquaient et certains arbres tombaient net, comme ça. C'est aussi ce qui est en train de se passer. Les arbres sèchent. Et puis aussi autre chose, c'est qu'un arbre qui est en situation de stress hydrique, il est un peu malade, donc il résiste moins à ce qui est leur pire ennemi, c'est le scolyte. Hein, c'est un insecte qui se met sous l'écorce et puis qui va creuser des trous dedans. C'est ce scolyte qui est responsable du même drame qu'on est en train de vivre au Canada, dans des forêts qu'on n'imaginait pas susceptibles d'être touchées par la sécheresse. C'était il y a un an, il y a deux ans, et c'est devenu récurrent. Après, les arbres tombent, mais ce qu'on a remarqué en 2003, suite à la canicule, j'ai un copain de promo qui est ingénieur ONF qui gérait des forêts de hêtres en Normandie, les forêts ont disparu. Et quelques années plus tard, c'est revenu. Ce qui veut dire qu'il y avait une diversité génétique supérieure à ce que lui avait imaginé et qui a fait que, par le hasard des choses, on a des hêtres qui sont réapparus.
Ça veut dire que cette forêt-là, qu'on voit devenir rouge, va s'adapter forcément. Donc peut-être, ces arbres-là sont plus adaptés au climat.
Alors, ça va un peu vite, hein. Ça va un peu vite. Peut-être qu'il va falloir les aider. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... On ne peut pas attendre la résilience du milieu naturel quand les phénomènes sont aussi rapides. La nature n'a jamais été confrontée historiquement à une telle accélération du réchauffement climatique. Et on sait malheureusement qu'en particulier, les bois, les arbres ne se déplacent pas très vite sur le territoire pour aller se mettre dans la zone qui leur est confortable. C'est pour ça que les sylviculteurs en France ont déjà commencé à changer. Ils ont déjà commencé à changer sur l'enraisinement, hein, ce dont on parle, l'enraisinement, encore une fois. Nous récoltons aussi le fruit de nos politiques. Nous avons décidé de faire beaucoup de résineux parce que ça faisait beaucoup d'argent.
Là, beaucoup, du pain de Douglas, c'est pas le cas. Là.
Beaucoup d'une seule espèce. Et quand on est dans un milieu où il y a une seule espèce, eh bien, malheureusement, s'il y a un épisode dur, c'est beaucoup d'arbres qui dégagent d'un coup.
C'est grave que pour les gens qui exploitent le bois et qui voient les cours s'effondrer, ou c'est plus grave que ça de voir cette forêt, comme on l'a vu là, avec des résineux qui deviennent rouges.
En fait, c'est grave pour la biodiversité. Et la biodiversité, on en fait partie et on en a besoin pour survivre. Ouais. Mais on a besoin aussi de ces forêts parce que ça ne sert pas qu'à faire du bois, une forêt.
Ou à la promenade.
Entre autres, ça sert à faire de l'eau. Je sais que ça peut sembler paradoxal, mais les captages d'eau sous les forêts, c'est des captages dont on est garanti qu'il n'y a pas de pesticides dessus parce qu'il n'y a pas de pesticides ni d'engrais dans les forêts. S'il n'y a plus de couvert forestier, ben, il n'y a plus d'eau sous les forêts et donc on ne peut plus la capter. Donc ça va nous poser d'autres problèmes. Encore une fois, les forêts en France sont des forêts cultivées. Oui. Donc, on peut faire quelque chose.
Mais en même temps, ça s'adapte un peu. Oui, non, rapidement, ces forêts-là, en fait, les arbres, s'ils peuvent, ils vont monter plus haut. C'est ce qu'on observe. Ils vont monter plus haut en latitude, en altitude et en latitude. Mais sur les Vosges, par exemple, les sommets ne sont pas à 2500 ou à 3000 mètres, donc ils vont être limités à un moment ou à un autre. Et là, dans les Vosges et là, dans le Jura, les forestiers sont en train d'essayer d'adapter, devinez quoi, le cèdre de l'Atlas qu'on va chercher au Maroc. Et oui, parce que lui est adapté à une sécheresse particulière, à un taux d'hygrométrie particulière. Le seul problème, c'est qu'il ne faut pas penser qu'à l'arbre. L'arbre, c'est que la partie émergée des champignons. Oui. Un arbre ne peut pas vivre sans la symbiose au niveau des racines qu'il a avec les champignons. Ils se nourrissent mutuellement. Donc vous pouvez implanter un arbre, mais si les champignons qu'il y a autour dans le pays d'origine ne sont pas là, n'arrivent pas à s'adapter, vous aurez du mal à planter ce cèdre de l'Atlas. En tout cas, il y a des solutions qui sont expérimentées. Ce qu'on assiste là, effectivement, tu l'as dit, c'est un phénomène majeur. Les forêts, pour l'instant, n'arrivent pas à s'adapter, mais peut-être qu'elles y arriveront.
Effectivement, les forêts sont vraiment une composante essentiel de ce que l'on appelle le système aquatique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réfléchir aux lacs, aux rivières, aux zones humides, aux aquifères, sans prendre l'environnement que constituent les forêts et les montagnes, d'ailleurs. Et pas pour les raisons qui ont été dites, effectivement, mais aussi parce que ça permet de nous protéger contre les risques naturels, ça permet de prévenir l'érosion des sols, ça permet d'assurer la qualité des ressources en eau et leur écoulement. Et donc, c'est vrai que c'est à la fois triste et aussi inquiétant. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on s'est beaucoup ému quand on a vu l'Amazonie brûler et avec le fleuve le plus long du monde, le débit le plus important du monde. Mais ce que ça pose en termes de politique publique, c'est la nécessité d'avoir une gestion intégrée de l'eau. Et ça veut dire pas regarder l'eau uniquement dans sa fonction sectorielle, mais regarder l'eau avec ce que ça implique en termes de biodiversité et sur le plan environnemental.
On ne le fait pas suffisamment, c'est ça que vous laissez entendre ?
On le fait mieux en France qu'ailleurs, je dois dire. On a des outils de gouvernance en France, des agences de l'eau qui font de la gestion par bassin versant. On a un nexus entre l'eau et l'énergie. On essaie, et on ne le fait pas assez peut-être, d'optimiser la gestion sur le plan agricole. Il faut une gestion intégrée, autrement les politiques sectorielles ne permettent pas d'avancer.
Ça veut dire, en gros, si chacun veut régler ses problèmes dans son coin, les agriculteurs, les forêts, l'acheminement d'eau potable en Corrèze, à Guéret et ailleurs, ça ne marchera pas.
C'est un jeu à somme nulle à la fin. Voilà. Donc,
mais surtout avec les forêts, 80% de la forêt appartient à des tout petits propriétaires privés qui font ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas vraiment d'obligation en fait, par rapport
à... Une question qui nous est posée, comment rendre l'agriculture moins tributaire des conditions climatiques ?
Comment rendre
l'agriculture moins tributaire des conditions climatiques ?
Tout simplement en s'adaptant, c'est-à-dire qu'on va être obligé de trouver des solutions qui fonctionnent dans des pays semi-arides à arides. On a beaucoup parlé des retenues collinaires, je pense que c'est une réponse absolument partielle, parce qu'effectivement vous allez créer une nouvelle réserve, une sorte de poche d'eau, premièrement à ciel ouvert, donc il y a à peu près 20% qui va repartir en évapotranspiration dans l'atmosphère. Donc c'est une somme qui est perdue. Et deuxièmement, on donne le sentiment à l'agriculteur qu'il lui reste encore une certaine quantité d'eau à utiliser. Donc, en fin de compte, on recule un peu pour mieux sauter, parce que finalement, il va utiliser plus longtemps, mais comme les sécheresses durent dans le temps, en fin de compte, on peut le faire de manière momentanée, à condition qu'il y ait une gestion derrière. Il y a des études qui ont été faites, il y a une thèse qui a été faite dessus, justement, en Tunisie, sur les retenues collinaires, et on s'est rendu compte que si on n'adapte pas ça avec un ensemble d'autres solutions, ça ne marche pas.
Une retenue collinaire, c'est un petit barrage ?
C'est un mini barrage, effectivement.
Un
mini stockage.
C'est ça. Par contre, il y a d'autres solutions. Par exemple, la micro-irrigation, qu'on appelle aussi. En fait, c'est vraiment. Ce sont des petites conduites enterrées où on va permettre d'avoir du goutte à goutte qui va permettre non seulement de diffuser de l'eau, mais aussi des intrants de manière beaucoup moins toxique, puisqu'on ne va pas les asperger. Donc, ça aussi répond à un problème, notamment des limitations des écoles, qui est une vraie. Ou des habitations, qui est une vraie problématique sociétale en ce moment. Et donc, en fin de compte, ces solutions-là sont très peu utilisées en France, déjà que l'irrigation est déjà très peu utilisée, alors qu'elles répondent à un vrai problème. Alors, il faut aller chercher dans les pays où il n'y a pas d'eau.
On en vient au problème de l'agriculture. Ce soir, il y a beaucoup de questions de gens qui disent « Ah bah oui, mais il faudrait commencer par dire aux agriculteurs d'arrêter d'irriguer, etc. » Alors, on se met aussi un peu à la place des agriculteurs. On leur a dit maintenant, alors qu'on leur a dit « Allez-y, produisez pendant des années », on leur dit « Faites sans pesticides, faites sans eau et... » Fissa, dépêchez-vous. Donc là, l'adaptation, elle doit se faire avec une réalité qui est une réalité économique, c'est-à-dire qu'il faut aussi nourrir les Français et ailleurs. Comment est-ce qu'on peut répondre à cette problématique-là? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, on ne peut pas leur demander de s'adapter en 15 jours.
Et on ne peut pas demander aux agriculteurs qui irriguent d'arrêter d'irriguer. D'abord parce que toutes les irrigations n'ont pas la même fonction. En France, quand on fait pousser des arbres fruitiers, il faut les irriguer, parce que si on ne les irrigue pas, on ne sort pas de fruits. Donc, on ne va pas demander demain aux gens qui font pousser des abricots d'arrêter de faire pousser des abricots, ça c'est certain. Après, des techniques d'irrigation qui sont beaucoup moins gourmandes en eau, il y en a. Et par ailleurs, ce qu'il faut interroger, c'est plutôt l'irrigation qui sert à augmenter les rendements. Quand vous irriguez un champ de maïs, c'est pour sortir plus de quintal à l'hectare. Quand vous irriguez du blé, c'est pour sortir plus de quintal à l'hectare. Parfois, dans des économies qui vont plutôt bien. C'est-à-dire que ce n'est pas les agriculteurs qui gagnent le moins bien leur vie qui irriguent. Cette irrigation-là, il va falloir l'interroger dans la gouvernance en disant bah, écoutez, on va continuer à faire une irrigation d'abord de meilleure qualité pour ce qui ne peut pas s'en passer. Et pour ce qui peut s'en passer, on va accepter de faire la part plus belle aux consommateurs.
Vous dites on. Aziza Akmouche, qui décide? Qui, à un moment donné, va dire eh ben, le maïs irrigué, c'est fini?
Alors, il y a des mesures, il y a des actions qui doivent être faites au niveau individuel des agriculteurs, qui sont liées au mode culturel, qui sont liées à l'utilisation de semences qui sont plus résistantes à ces épisodes de sécheresse, qui cherchent à faire une meilleure utilisation des plaines inondables. Et puis, il y a des solutions qui sont des solutions de politique publique et qui relèvent à la fois d'investissements dans des technologies et des réseaux, des infrastructures plus efficientes qui permettent de minimiser les pertes, si je puis dire, mais surtout qui investissent dans l'accompagnement du changement comportemental pour qu'on commence à produire ce que les conditions hydriques et climatiques permettent et pas l'inverse. Et donc, ça implique de rationaliser l'usage, de conscientiser, de mettre un signal prix, parce qu'à partir du moment où on commence à payer, on fait attention, on a des principes, le principe du pollueur-payeur, de l'usager-payeur, ils ne sont pas mis en œuvre.
Signal prix, c'est-à-dire faire payer plus cher l'eau pour les agriculteurs?
Payer l'eau qu'ils consomment, tout simplement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, où en France, on fait peser l'essentiel de la facture d'eau sur l'usager domestique qui en est le consommateur minoritaire.
Deux sujets que je voudrais aborder assez rapidement, pardon de vous presser. Dans le Puy-de-Dôme, en 10 ans, les entreprises ont baissé leur consommation d'eau de 30%.
Ah oui.
Donc, 30%.
Ah, mais il y a des progrès, notamment dans le monde industriel, mais même l'agriculture, quand elle irrigue avec moins d'eau qu'avant. Mais non,
on sait faire.
Non, mais on sait faire.
On doit changer de comportement.
Mais même l'agriculture sait faire avant même d'avoir des retenues collinaires, avant même d'adapter le sorgho, de planter du sorgho à la place du maïs. Enfin, la plus grande de réserve d'eau, qui se trouve être le plus grand puits de carbone, qui se trouve être le plus grand puits de biodiversité, c'est les sols. C'est les sols. L'agriculture demain, et c'est en cours, une agriculture de conservation des sols, qui travaille le moins possible ces sols, qui les laisse couverts en permanence, qui les laisse couverts en permanence avec des plantes qui vont l'enrichir en azote, avec plein de racines, plein de champignons. C'est ça l'agriculture demain, et comme par hasard, c'est une agriculture qui consomme moins d'eau.
L'autre sujet, parce qu'on en a parlé très rapidement, c'est Niort. On essaie de voir des choses un peu positives. Il y a des villes comme Niort qui ont été en stress hydrique, en tout cas qui ont été en situation de crise de manque d'eau et qui se sont adaptées.
Mais en fait, on n'a pas le choix quand on est face à situation de crise. D'ailleurs, je pense que les agriculteurs qui vivent actuellement cette situation majeure vont être amenés l'année prochaine à se poser de vraies questions par eux-mêmes.
Sur Niort, qu'est-ce qu'on a fait à Niort de différent?
Bah, effectivement, à Niort, en fait, alors je n'ai pas suivi dans le détail toutes les actions qui ont été mises en œuvre. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont basculé à un moment donné dans un état, une situation telle qu'ils ont dû revoir l'intégralité de la gouvernance.
Eh bien, on va passer au troisième reportage. En Italie, ça fait longtemps qu'on a appris à vivre avec le manque d'eau. Près de Rome, une centrale purifie 4000 litres d'eau usagée par seconde. Une eau traitée, utilisée du coup ensuite par les agriculteurs, un modèle qui inspire, vous allez voir aussi, les exploitants de l'île de Ré. Mélanie Nunez et Aurélie Samer.
C'est une technique romaine qui date de 2000 ans. Recueillir l'eau de la pluie grâce à ses réseaux d'aqueducs. Éviter le gaspillage de l'eau a toujours été l'une des priorités en Italie. À 30 km de Rome, cette station d'épuration recueille et purifie 4000 litres d'eau par seconde. Dans ses bassins, des eaux usées ou de pluie traitées, filtrées et redistribuées dans des réseaux d'eau non potable.
Voici deux flacons. Dans le premier, c'est l'eau qui entre dans le centre d'épuration, qui comprend à la fois les eaux pluviales et les eaux usées. Et dans l'autre flacon, c'est l'eau à la sortie, à la fin du processus de traitement.
En une journée, 350 millions de litres d'eau sont filtrés dans cette station. Une technique utilisée depuis 2003. Dans cette région, à l'été sec et chaud, cette eau recyclée est devenue un bien très précieux pour les agriculteurs. L'arrosage de ces légumes est sans conséquence conforme aux normes européennes.
Nous n'utilisons pas d'eau potable dans l'irrigation, mais seulement des eaux pluviales et des eaux traitées.
Un modèle européen à suivre. En Italie et en Espagne, 10% des eaux sales sont recyclées. En France, c'est moins d'1%. L'Hexagone est même le pays d'Europe qui traite le moins d'eau pluviale et usée. Sur l'île de Ré, cette exploitation fait figure d'exception. Sur ce terrain sablonneux, 14 hectares de pommes de terre. Une culture qui requiert beaucoup d'eau. Cet agriculteur irrigue grâce à de l'eau recyclée, car sur l'île, pas de nappe phréatique ni de pompe à eau, et le réseau d'eau potable qui provient du continent est vendu 3 fois plus cher que cette eau traitée.
Ça me coûte entre 70 et 80 centimes le mètre cube. C'est un prix raisonnable par rapport à la culture qui est mise en place.
À quelques kilomètres, cette station d'épuration qui traite les eaux de la ville. Pour aider ces agriculteurs, la commune a fait construire ce bassin réservé à l'irrigation. 12 000 mètres cubes d'eau filtrée et recyclée grâce à des technologies de pointe.
On passe à l'intérieur de ce réacteur UV. Donc là, vous avez 20 lampes de 300 watts chacune et pour la désinfection finale, ça tue toutes les bactéries et les virus.
1 million d'euros d'investissement et 50 000 euros dépensés chaque année pour la maintenance. Une solution rendue possible grâce à la ténacité du maire.
Il est impensable de rejeter de l'eau traitée à grands frais à la mer. Donc on manque d'eau et on rejette à la mer. Donc pour nous, c'était vital donc de recycler les eaux issues de la station d'épuration.
Car aujourd'hui, si la France est très en retard, c'est d'abord à cause de sa législation. Arroser des cultures avec des eaux usées reste très encadré. Des règles sanitaires qu'il faudrait assouplir pour développer cette technique, explique la directrice du Centre d'information sur l'eau.
La première chose, c'est desserrer la réglementation, la rendre un peu plus permissive, tout en continuant d'encadrer, hein, c'est tout le débat, et je pense que voilà, ça va avancer. Et puis la deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on aura la réglementation qui permettra, mais effectivement, il faudra de l'autre côté le faire. Donc il va falloir que, un, les gens se mettent autour d'une table, les agriculteurs, les industries, etc., pour avoir connaissance de cette nouvelle possibilité et se mettre dans le mouvement.
Se mettre dans le mouvement. 8 Français sur 10 se disent déjà prêts à consommer des fruits et légumes irrigués par ces eaux recyclées.
Et ben voilà, et cette question qui nous est posée ce soir, utiliser les eaux usées pour arroser, est-ce la solution miracle? Ça y ressemble, Ben Hartmann.
Non, ça ne peut pas être la solution miracle, d'abord parce qu'il y a un volume d'eau usée qui est ce qu'il est et donc qui ne permet pas d'irriguer toute la France. Et par ailleurs, les eaux usées traitées, elles posent certains problèmes. Les eaux usées traitées, malheureusement, on retrouve des résidus de médicaments que nous, on utilise régulièrement, comme par exemple la pilule contraceptive, comme un certain nombre d'antidépresseurs.
On retrouve la pilule contraceptive dans les eaux usées traitées.
Oui, oui, parce que malheureusement, on sait enlever les bactéries, on sait enlever les virus, on sait enlever un certain nombre de choses, des particules, mais en revanche, il y a des médicaments dont on ne sait pas se débarrasser. Donc on sait qu'ils posent déjà des problèmes quand ils arrivent dans les rivières avec la féminisation des poissons et d'un certain nombre d'autres espèces. On connaît très mal leur effet sur les sols. C'est-à-dire que dans les sols, il y a une vie, et il y a une vie qui est sexuée. Et donc, si on met des perturbateurs endocriniens, puisque c'est ce qu'ils sont, dans les sols, on peut s'attendre à déséquilibrer la vie des sols. Or, la vie des sols, c'est ce qui soutient l'agriculture. C'est bien parce qu'il y a une vie dans les sols que l'agriculture reste productive. Donc, on est peut-être en train de jouer un petit peu aux apprentis sorciers.
Et donc, ils le savent en Italie, ça?
En fait, en Italie, ils n'ont pas tout à fait la même question. Et à l'île de Ré, qui sont des cas particuliers, parce qu'il existe peu ou pas d'alternatives. Quand il n'y a plus d'alternative, éventuellement, vous pouvez prendre le risque de jouer à l'apprenti sorcier parce que vous êtes acculé. Nous, en France, on n'est pas acculé parce qu'on sait faire autrement et qu'on peut faire autrement. Donc, honnêtement, quand on entend qu'il faudrait assouplir la législation sur la qualité de l'eau qu'on peut utiliser pour arroser, doit s'inquiéter.
Ça paraît assez de bon sens de dire ça, de dire bah, pour arroser des champs, on peut utiliser des eaux qui ne sont pas propres à la consommation. Vous voyez ça?
Oui, mais le bon sens, malheureusement, parfois, il n'est pas bon conseiller. Vous savez, on se dit aussi que stocker de l'eau pendant l'hiver pour pouvoir l'utiliser pendant l'été, après tout, ça a l'air de bon sens. Sauf que le problème, c'est qu'on crée des sécheresses en aval et puis qu'on empêche éventuellement une nappe phréatique de se recharger si on prend l'eau avant. Donc, on va peut-être aggraver la sécheresse de l'année d'après, outre le fait qu'on va donner une fausse impression de sécurité sur l'eau. Donc, les solutions qui sont intuitives, parfois, ne sont pas les bonnes et malheureusement, on découvre parfois trop tard. Les dégâts qu'elles ont faits. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, oulala, on arrête. Mais nous, on préférait qu'il y ait une sorte de principe de précaution qui dise, bah, écoutez, si on n'est pas capable de sortir de l'eau qui ne féminise pas la vie des sols, eh bien, il faut...
Féminiser la vie des sols, on ne voit pas à quoi ça peut ressembler.
Toute proportion gardée, oui, quand même, ça. Attention.
Hein. Alors, les Nations Unies ont appelé ça le nouvel or noir en 2017, le recyclage des eaux usées. Il faut savoir qu'il y a certains pays, c'est le cas de Singapour, par exemple, où il y a un tiers de l'approvisionnement en eau potable qui provient directement du recyclage des eaux usées. C'est-à-dire qu'on ne l'utilise pas juste pour irriguer les espaces verts et les golfs et éventuellement pour l'agriculture, on l'utilise pour en faire de l'eau potable. Mais c'est effectivement des territoires où il y a un stress hydrique tel qu'il n'y a pas énormément de solutions. En France, il faut savoir que les assises de l'eau, dont la dernière séquence s'est tenue en juin, ont eu comme engagement de multiplier par 3 à l'horizon 2025 ce qu'on appelle les eaux non conventionnelles, mais en mettant le recyclage des eaux usées dans le même pot, si je puis dire, que les eaux grises ou les eaux de pluie.
Du robinet. De notre évier.
Donc il y a un objectif, mais qui n'est pas très chiffré, pas très chiffrable. En revanche, il y a des pays, l'Espagne et l'Italie, recyclent déjà entre 8 et 15% de leurs eaux usées. Israël recycle 80% de ses eaux usées. Et c'est très intéressant de voir que 80% des Français se disent prêts à finalement consommer des légumes qui auraient été arrosés avec des eaux usées, parce que c'est déjà le cas quand on consomme de l'avocat qui vient d'Israël ou des tomates ou des fraises qui viennent de l'Espagne, c'est comme ça qu'ils sont
arrosés. Oui, mais là, du coup, ça nous inquiète avec ce qui vient d'être raconté sur le fait qu'on récupère des médicaments. Vous voyez
ça, parce qu'en fait, le danger, il est important, le risque,
c'est pas dans l'alimentation.
Oui, mais...
On ne mange pas ces médicaments, simplement, ils ont potentiellement un effet sur la vie des sols.
Du coup, on les retrouve quelque part, non ?
Qu'on connaît très mal. En fait, on les retrouve dans les rivières. Après, ils sont lessivés et on les retrouve dans les rivières et à la mer.
Non, mais le risque, on ne sait pas l'évaluer. Il faut expérimenter de toute façon. Parce que si on tire sur le fil, on peut dire que les sols seront plus déprimés, vu qu'on retrouve des anxiolytiques aussi dans
les sols. Les sols sous antidépresseurs.
Et des antibiotiques, donc il y a vraiment une antibiorésistance. Donc on est quand même les champions de l'antidépresseur. En fait, c'est très simple, les rivières en France sont les marqueurs de nos modes de vie. Donc dès que la pilule est arrivée, effectivement, on a trouvé cette féminisation des poissons et de toutes les espèces environnant la ripisylle, donc ces rivières.
C'est pas un phénomène général.
On va laisser finir. Ils sont remplis effectivement d'antidépresseurs et ça pose une vraie question derrière parce que on l'a vu sur des fleuves comme la Dordogne par exemple qui est quand même au centre de la France et plutôt très protégée. On n'est pas dans des zones anthropisées où on a une chute drastique en fait des populations de poissons qui sont liées à deux choses uniquement. Premièrement à la gestion des barrages en amont qui ne sont pas compris par les poissons, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi par cette féminisation qui fait que vous avez des mâles qui se mettent à frayer et essayer de pondre des œufs. Effectivement, à un moment donné, ça ne marche plus et ces poissons ne se reproduisent plus. Donc, c'est un vrai problème parce que derrière, cette eau-là, ensuite, est récupérée par les agriculteurs, les viticulteurs, pour ensuite alimenter nos champs et remplir nos légumes. Et puis ensuite, on les remange. Donc, de toute la façon, même si on ne boit pas cette eau directement, on va finir par la récupérer. Ouais. Et ça pose la question plus large de l'antibiorésistance et derrière, effectivement, du rôle que ça peut jouer sur nos sociétés.
Eh ben, merci pour cette explication et la féminisation des sols. Il y a des chercheurs qui travaillent pour savoir quelles conséquences ça peut avoir, la féminisation des sols.
Oui, mais on travaille moins vite à faire de la recherche qu'à faire de l'argent. C'est-à-dire qu'on irrigue plus vite avec cette eau-là qu'on ne cherche à voir ses effets. Pour autant, encore une fois, pas de panique. Ça n'est pas un phénomène généralisé. Pour l'instant, c'est très encadré en France. Et donc, on est assez protégé. En revanche, nous sommes nous-mêmes victimes des perturbateurs endocriniens. En France, il y a des cas avérés de ce qu'on appelle une adolescence précoce chez les jeunes femmes en particulier, où l'adolescence intervient avant 10 ans et on sait que c'est lié à l'exposition à des perturbateurs endocriniens.
Pas uniquement par le biais de l'eau.
Pas uniquement par l'eau, mais entre autres par l'eau.
D'accord. Et nous revenons maintenant à vos questions. Ben justement, cette question pour vous, l'eau sera-t-elle le nouvel or noir ?
On l'appelle déjà l'or bleu. Alors, il faut savoir qu'on a l'impression de vivre sur une planète bleue. En réalité, seuls 3% de ces ressources sont des ressources d'eau douce. Les lacs, les rivières, les aquifères. Le reste, c'est de l'eau de mer. Donc, on a l'impression de vivre dans une situation d'abondance. Ça n'est pas le cas. Et en plus, elle est très inégalement répartie sur les territoires.
On aura toujours la possibilité de dessaler l'eau de mer ?
On dessale déjà l'eau de mer dans de nombreux pays. Il y a des conséquences environnementales. C'est très énergivore, etc. Mais c'est une solution technologique qui permet de gérer l'offre. Mais ça ne permet pas de gérer la demande. Et donc, il faut toujours travailler sur les deux pendants. C'est-à-dire qu'il y a des outils qui permettent de créer plus d'eau quand il n'y en a pas, mais il y a surtout des outils qui permettent de changer les comportements pour qu'on en consomme moins. Ouais. Et je pense qu'il faut plus se concentrer sur ces aspects-là.
Alors, quel est le lien entre le réchauffement climatique et l'absence de pluie ?
Le réchauffement climatique, il a des effets sur la météo. C'est-à-dire que le climat, ça a des effets sur la météo. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le réchauffement climatique en France, il se caractérise par une méditerranéisation du climat, c'est-à-dire un été plus long et plus sec et des pluies plus concentrées et plus torrentielles.
Mais ça change, à l'année, en fait, ça change globalement rien au volume d'eau. En fait, c'est juste que le moment où l'eau tombe sur Terre est modifié. Voilà. Et ça tombe plus vite.
Ça tombe plus vite, d'où les inondations et les situations de crise, ça. À l'inverse. Que
c'est la répartition de l'eau dans le temps.
En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir deux effets. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous avez effectivement des périodes avec ce stress hydrique énorme et finalement cette absence de pluie. Et puis cette pluie arrive, vous parliez d'éponge tout à l'heure, c'est vraiment ce qui se passe. Vous pouvez avoir des millions de mètres cubes d'eau qui tombent et qui pénètrent, qui finissent par pénétrer dans les sols, et vous n'avez pas à avoir de marqueur en fait au niveau des rivières puisqu'elles ne vont pas réagir. C'est-à-dire que c'est une énorme éponge qui va se mettre dans un premier temps à absorber. Le problème, c'est que quand on est dans ces périodes automnales, dans des zones par exemple méditerranéennes, on a des gros carstes, vous savez, ces massifs calcaires qui peuvent contenir en fait des millions de mètres cubes d'eau. Ouais. À partir du moment où ils sont saturés, là c'est le système qui s'emballe et on passe à des crues éclairs qu'on maîtrise plus et à des situations où les routes sont coupées et où on a des victimes majeures.
Les sécheresses de plus en plus fréquentes n'annoncent-elles pas la fin du nucléaire ? Alors, vous nous avez expliqué tout à l'heure qu'on est déjà en train de s'adapter.
Non. La fin du nucléaire, on va le rencontrer pour des raisons économiques. J'aurais préféré que ce soit pour des raisons de sûreté. Mais néanmoins, on va le rencontrer pour des raisons économiques. Il est déjà plus rentable de faire de l'éolien qui est sans danger au kilowattheure sorti que du nucléaire. C'est quand même un gros marteau pour un petit moustique parce qu'on sait faire de l'eau en faisant tourner des petits moulins dans l'eau. Donc, ouais, probablement,
75% de l'électricité produite en France l'est par le nucléaire.
Oui, mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que ça ne peut que renchérir. C'est-à-dire renchérir le fonctionnement. Si on rajoute des frais, bien, c'est encore moins rentable de faire du nucléaire.
Ne pourrait-on pas repenser notre rapport à l'eau ? À quoi ça rime d'utiliser de l'eau potable pour les WC ? On a toujours cette question et je remercie qu'il s'appelle Georges d'à Bruxelles de poser cette question.
Bah, on en parlait tout à l'heure. Les eaux grises, c'est-à-dire les eaux domestiques qui ont été utilisées, pas les eaux noires, les eaux des toilettes, c'est les eaux noires. Mais les eaux grises qui ont été utilisées, ça fait un moment qu'il y a des gens en France qui disent, écoutez, il n'y a que du savon dedans, je voudrais pouvoir arroser mon jardin, je voudrais pouvoir alimenter ma chasse d'eau avec simplement l'eau de mon robinet. Alors d'ailleurs, je vous conseille, hein, il existe des petits lavabos qui s'adaptent sur la chasse d'eau et qui fait que quand vous lavez vos mains, ça recharge votre chasse d'eau. Ça existe déjà. En revanche, c'est bien au niveau préfectoral que ça bloque. C'est-à-dire que c'est la préfecture qui dit qu'il y a des risques de mélange entre des eaux propres et des eaux sales qui sont telles qu'on ne veut pas prendre le risque d'autoriser ça. Évidemment, il va falloir y venir. Encore une fois, il va falloir faire bien attention à séparer les eaux grises.
Les deux réseaux.
Les eaux grises, votre baignoire et votre lavabo, et surtout pas vos toilettes.
Je pense que juste avant ça, en fait, on peut faire d'autres choses, c'est-à-dire qu'on peut réduire notre consommation à l'échelle individuelle en mettant ce que l'on appelle des mousseurs d'eau qui vont réduire le débit, effectivement. On peut travailler aussi sur les embouts de douche. Vous avez énormément de solutions, notamment le fait de récupérer l'eau qui vient du ciel à l'échelle de votre jardin, dans toutes les zones pavillonnaires. On peut le faire. Le problème, c'est qu'en général, ces populations, il faut les accompagner parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Et deuxièmement, il y a aussi ce coût qui souvent leur fait peur et qui font que si on ne finance pas ça, en général, ils n'y vont pas.
Alors il n'y a pas eu beaucoup de politiques publiques d'accompagnement pour l'économie d'eau. Il y a eu de la communication, de l'information. Il n'y a pas eu beaucoup d'aide, justement,
alors,
pour
sur la question de l'eau,
équipements.
Non. Sur la question du risque d'inondation, on en parlait tout à l'heure, oui, puisqu'on est capable aujourd'hui d'accompagner les gens. Mais effectivement, il va falloir changer nos modèles.
Mais l'eau domestique, c'est rien. L'eau domestique, c'est en volume. Voilà, en volume.
C'est pas de notre faute, c'est ça, vous voulez dire.
Si on faisait des grosses économies chacun chez nous, malheureusement, on ne résoudrait pas le problème. Parce que
oui, mais ça permet de moins soutirer la nappe, quand même.
C'est certain.
On a compris que c'était la faute des agriculteurs, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure.
Je n'ai pas dit que c'est la faute des agriculteurs, c'est 3% des agriculteurs qui utilisent de l'eau pour l'irrigation.
Je vous taquine. Les communes devront-elles instituer une police de l'eau pour contrôler la bonne application des arrêtés ?
Ça existe déjà. Il y a déjà eu des amendes, c'est la préfecture qui les délivre, des amendes, là, cette semaine, pour utilisation, arrosage de pelouse qui était interdite.
Allons-nous devoir importer de l'eau ?
Non.
Pas la France.
On n'en est pas là en France.
Non, mais par exemple,
en France métropolitaine.
Vous prenez une ville comme Montpellier, vous avez une rivière qui la traverse qui s'appelle le Lez. À partir du mois de juillet, elle n'est plus alimentée par sa propre rivière, elle est alimentée par le Rhône. Donc en fait, c'est intéressant de comprendre qu'en fin de compte, il y a des jeux
c'est
comme
pas
ça.
Impossible en France.
Allez, doit-on prévoir des famines et une pénurie d'eau potable
en France ?
Oui.
Non.
Ailleurs, c'est pas le scénario catastrophe. Ailleurs, c'est déjà le cas. C'est on a énormément de réfugiés hydriques, de réfugiés climatiques. Il y a un nexus très fort entre l'eau, la sécurité alimentaire et la sécurité
tout court.
Eh bien,
merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h25 demain. Vous retrouvez Axel de Tarlé. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée sur France 5.